C'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une, la COP26 qui a finalement trouvé un compromis. Un grand pas selon Boris Johnson, du blabla selon Greta Thunberg. L'objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré reste le même, mais sans aucune garantie.
Et pour la première fois, il a été question des énergies fossiles et du charbon. Mais l'Inde et la Chine ont réduit presque à néant les ambitions du texte. À la dernière minute, nous ferons le point dans un instant. Dans l'actualité, une victoire sans compromis, celle-là, et un numéro 10 qui est entré dans l'histoire.
J'ai marqué de la tête à l'entraînement avec mon cache-cou et crié à la chance. Donc c'est un coup du destin. C'est vrai que voilà, j'ai pas un grand jeu de tête. Donc voilà, je vais continuer à travailler pour en marquer d'autres.
Kylian Mbappé a marqué un quadruplé, c'est inédit depuis 1958 avec 8-0. La France a son ticket pour la Coupe du Monde de football au Qatar, le journal des sports avec Laetitia Bernard. L'Autriche qui veut confiner les non-vaccinés et puis nous verrons que l'Église mène un inventaire inédit de son patrimoine. Elle va devoir en vendre une partie pour indemniser les victimes d'abus sexuels.
Et puis dans 20 minutes, ne manquez pas notre invitée, ce sera la sémiologue Mariette Darigrand. Elle publie « Viril comme Vénus » aux éditions de l'Équateur.
France Inter.
Now invite the CMA to adopt the decision entitled Glasgow Climate Pact. Hearing no objections, it is so decided.
Nous allons adopter le pacte de Glasgow sans objection. Il était 20h41 hier soir lorsque Alok Sharma, le président britannique de la COP26, a donné son coup de marteau final. Mais c'était après quelques larmes à peine contenues et une déception affichée. Boris Johnson saluait un bon accord qui permet de contenir le réchauffement en dessous d'un degré 5 par rapport à l'ère pré-industrielle, mais sans aucune garantie. La volonté politique n'a pas suffi pour surmonter les contradictions des uns et des autres. Et il y a une illustration assez éclatante. Pour la première fois, il a été question ouvertement des énergies fossiles. Mais à la dernière minute, l'Inde et la Chine ont réussi à édulcorer le paragraphe, Sandy Dauphin.
C'est l'heure des décisions. Hier soir, le président de la COP s'apprête à faire adopter la déclaration de fin de sommet lorsque le délégué indien demande la parole. Surprise, il veut modifier le paragraphe concernant les énergies fossiles. L'Inde remplace le terme « sortie du charbon » par « diminution ». L'Europe, le Mexique, les îles Marshall expriment leur profonde déception. La déléguée suisse dénonce la forme comme le fond.
Let us be clear. We do not need to
Soyons clairs, il ne faut pas diminuer mais sortir du charbon et des subventions aux énergies fossiles. Ceci ne nous rapproche pas de l'objectif de 1,5 degré, mais au contraire, ce sera plus difficile à atteindre.
Thank you.
Ensuite, le président britannique Alok Sharma prend la parole, très ému. Il s'excuse pour ce coup de théâtre.
Je m'excuse pour la façon dont ce processus s'est déroulé. Je comprends aussi la déception profonde. Mais vous l'aurez noté, c'est vital de protéger cet accord.
Pour ne pas compromettre l'issue de cette COP, les délégués ont accepté la concession faite à l'Inde.
Greta Thunberg, la jeune égérie du climat, a dénoncé une fois de plus du blabla pour son homologue française Adélaïde Charlier, cofondatrice du mouvement Youth for Climate. Cet accord n'est pas à la hauteur.
On a l'impression qu'évidemment l'avenir de la jeunesse, elle est négociable. L'avenir des populations qui sont déjà touchées par les conséquences climatiques, elle est négociable. Mais par contre, les intérêts des industries fossiles, ça, elle est non négociable. Encore aujourd'hui, on ne peut pas mettre dans un papier, comme la COP26, de dire qu'on sortira complètement du charbon. Cela a été changé en dernière minute par « on va doucement essayer de sortir du charbon ». Clairement, ce n'est pas suffisant et ce n'est pas à la hauteur des dangers auxquels l'humanité font face.
Quant à la solidarité avec les pays pauvres, les moins responsables du réchauffement, mais les plus impactés par les catastrophes, ils espéraient un financement spécifique des pertes et préjudices. Il n'en a rien été. Alors pour résumer, c'est un peu l'histoire du verre, à moitié plein ou à moitié vide. Le climatologue Jean Jouzet, l'ancien vice-président du GIEC, est déçu, mais il tempère.
Il y a quelques avancées, par exemple, effectivement, sur le charbon, sur le méthane qui a été cité, sur quelques accords sectoriels, mais ce n'est pas une grande COP. Il n'y a pas vraiment ce dynamisme qu'on espérait. Alors les points positifs également, c'est quand même d'une certaine façon la quasi-finalisation des règles d'application de l'accord de Paris. Ça, c'est très important. Mais je crois quand même que les points noirs restent la difficulté qu'ont les pays développés à tenir leurs engagements d'aide par rapport aux pays en voie de développement. Il faut bien voir qu'en 2030, les émissions seront deux fois plus importantes que ce qu'elles devraient être pour nous laisser une chance de rester sur 1,5°C. C'est ça le problème. Et puis, ce manque de solidarité, moi, me déçoit entre pays riches et pays pauvres. Il n'y a personne qui a vraiment entraîné cette COP vers le haut.
Le climatologue Jean Jouzel, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, y voit un compromis utile, une nouvelle étape, même s'il reste, dit-elle, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir.
À la une également, le froid qui réactive le Covid. En France, le taux d'incidence a grimpé de 52% en une semaine.
Alors, pour contenir cette cinquième vague des restrictions nouvelles vis-à-vis de nos voisins, les Belges, par exemple, non vaccinés, devront montrer un test négatif de moins de 24 heures pour entrer dans notre pays. Et l'Autriche, elle, se prépare à confiner les non-vaccinés à Vianizorias.
Les Autrichiens non-vaccinés n'ont depuis ce lundi déjà plus accès aux restaurants, salons de coiffure ou lieux culturels réservés à ceux pouvant prouver qu'ils sont soit récemment rétablis du coronavirus, soit vaccinés. Le chancelier Alexander Schallenberg veut désormais aller plus loin en confinant les personnes non-vaccinées, limitant ainsi leurs déplacements au strict nécessaire. Il doit pour cela obtenir le feu vert du Parlement ce dimanche. Selon la presse autrichienne, si c'est le cas, ce confinement d'un nouveau genre pourrait entrer en vigueur dès lundi dans tout le pays. Cette mesure sera-t-elle efficace? C'est toute la question aujourd'hui. Le chancelier a en tout cas précisé qu'il y aurait des contrôles aléatoires. Le but est de faire face à la forte hausse du nombre de contaminations ces derniers jours. L'Autriche enregistre désormais 12 000 nouveaux cas quotidiens. Le gouvernement espère surtout convaincre les réticents de se faire vacciner. À ce jour, 65% de la population a reçu ces deux doses, un taux honteusement bas, selon le chancelier. Vianizorias, France Inter.
On vote aujourd'hui en Bulgarie des élections législatives. Troisième scrutin de ce genre en moins d'un an. Les Bulgares s'étaient déjà rendus aux urnes en avril et en juillet dernier. Entre la corruption, la pandémie de Covid qui n'est absolument pas gérée et une classe politique totalement décrédibilisée, il est difficile de prédire qui dirigera le pays. Mais les hypothèses les plus folles ne sont pas les plus improbables, Nathanaël Charbonnier.
Entre le conservateur Boyko Borisov, dont certaines photos ont fait scandale, on l'avait vu dormant à côté d'un pistolet avec des liasses de billets de 500 euros, et le chanteur et homme de télévision Slavi Trivonov, qui s'était fait remarquer lors des dernières élections avec une campagne réalisée principalement sur Facebook, entre ces deux candidats, difficile de savoir à quoi ressemblera le paysage politique à la fin du week-end, d'autant qu'est apparu dernièrement un parti centriste emmené par deux diplômés d'Harvard qui entendent jouer les troubles faits. Pro-européen, anticorruption, ce mouvement né en septembre dernier qui répond au nom de « Continuons le changement » pourrait arriver en seconde position si l'on en croit les sondages. Enfin, quelle que soit l'issue du scrutin, il y a urgence. La Bulgarie doit vite retrouver une stabilité politique avec des hommes capables de gérer le pays, à commencer par la pandémie de Covid. À ce jour, faute de décision politique, seulement 20% de la population est immunisée.
En Équateur, la guerre des gangs se poursuit jusqu'en prison. Il y a eu des scènes barbares dans un pénitencier du sud-ouest du pays. Coups de feu, attaques au couteau, corps mutilés, brûlés. Les affrontements ont fait 68 morts chez les détenus et 25 blessés.
Encore un grand inventaire en cours dans l'église catholique.
Oui, après l'inventaire de la commission Sauvé qui a estimé à plus de 330 000 personnes le nombre de victimes d'abus sexuels depuis les années 50, l'église s'intéresse à celui de son patrimoine, car il va falloir se séparer d'une partie de ses bâtisses pour indemniser les victimes. La CIAS, la commission indépendante qui gère ce drame, ne veut pas que l'église fasse appel aux deniers du culte. Et dans les diocèses, Rémi Brancato, on liste les biens immobiliers.
À Châlons, en Champagne, l'évêque François Touvet ne perçoit, dit-il, que 1 000 euros par mois. Mais il a tenu à contribuer personnellement au fonds d'indemnisation des victimes.
J'ai cassé ma tirelire en envoyant un chèque.
Un geste évidemment insuffisant, alors comme dans tous les diocèses, il faut lister les biens immobiliers à vendre.
Dans le diocèse de Châlons, le patrimoine immobilier s'élève aux alentours de 10 millions d'euros. Seulement dedans, il y a le logement des prêtres, etc. Donc il nous faut vraiment étudier quels sont les bâtiments qui pourraient être cédés.
L'évêque estime pouvoir vendre 10% de ce patrimoine.
Nous possédons des presbytères. Ce sont des maisons, 4, 5 pièces ou 6 pièces que nous pourrions éventuellement vendre parce qu'elle n'est plus dans le village central d'une paroisse. Après, nous possédons 7 églises. Ce sont des biens plus difficiles à vendre.
En France, environ 2000 églises sur 45 000 appartiennent au diocèse, celles construites après la loi de 1905.
Une église vaut aux environs de 250 000 à 500 000 euros. C'est pas une recette énorme.
Édouard Delamaze, président de l'Observatoire l'Observatoire du patrimoine religieux a dénombré une cinquantaine d'églises vendues ou en vente depuis 5 ans pour renflouer les caisses des diocèses.
Attention à ce que vous vendez et faites en sorte que le patrimoine culturel de la France ne soit pas détruit sans réflexion.
Pour indemniser les victimes, l'Église catholique entend réunir dans un premier temps 10 à 20 millions d'euros.
Rémi Brancato, quel est le point commun entre une bière, une crème anti-ride, un chocolat ou un Playmobil?
Alors ça, j'ai aucune réponse.
Eh ben, vous pouvez retrouver tout ça dans les calendriers de l'Avent, figurez-vous. La tradition religieuse est devenue très commerciale et ce qui était au départ destiné à faire patienter les enfants jusqu'à Noël s'intéresse aux adultes. Alors à 17 jours de l'ouverture de la première case, faisons le point avec vous Agnès Soubiron, bonjour.
Bonjour.
Les calendriers de l'Avent, c'est l'occasion d'un nouveau rendez-vous avec les clients.
Oui, Noël est encore trop loin, alors pour faire vivre l'attente, une petite surprise par jour à découvrir et ou à déguster, les industriels ont compris l'intérêt de diversifier leurs offres. Il y a d'abord eu les calendriers beauté. Toutes les grandes chaînes, comme les marques de luxe, en proposent désormais entre 50 et 410 euros. Mais le phénomène actuel concerne l'alimentaire avec des calendriers salés, terrines et rillettes du sud-ouest, mais aussi des sélections de fromages, sans oublier le calendrier de l'Avent qui propose une sélection de 24 bières. Le paquet pèse 13 kilos. Pour tous ces calendriers, les prix varient entre 60 et 90 euros. Le calendrier de l'Avent peut être aussi un cadeau offert par certaines marques à leurs partenaires ou meilleurs clients. C'était le cas de Louis Vuitton l'an dernier.
Et cette année, il y a désormais aussi des calendriers de l'Avent pour les tout-petits?
Oui, dès 2-3 ans avec des jouets en bois. Pour les plus grands, le roman de l'Avent où chaque jour l'enfant doit découper les pages d'un nouveau chapitre de son livre. Et puis la vague du do-it-yourself, des loisirs créatifs, touche aussi le secteur avec des décors, des figurines à construire ou à peindre. Dans le secteur du jouet, Lego et Playmobil ont une longueur d'avance parmi la centaine de références disponibles. Prix moyen 22 euros et un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros l'an dernier. Là encore, l'attrait ne semble pas faiblir. Au contraire, les industriels tablent sur une hausse des ventes de 10% cette année. On est loin, très loin de l'origine des calendriers de l'Avent qui remonte au 19e siècle en Allemagne, quand des images pieuses étaient distribuées chaque jour aux enfants en attendant le jour de Noël.
Merci Agnès. Lui, il s'est déjà offert son cadeau de Noël. C'est Kylian Mbappé.
Vous avez parlé de football, oui. C'est l'heure des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Et voilà, une nouvelle occasion de chanter à We'll Survive pour les supporters de foot. Les Bleus iront défendre leur titre au Qatar l'an prochain.
Ah, ils le voulaient, leur billet hein, pour le Mondial 2022. Bah, c'est fait et il faut voir comment. Victoire 8-0 sur le Kazakhstan, un quadruplé de Kylian Mbappé. Si les premiers matchs de qualification étaient parfois un peu poussifs, bah, hier soir les Français ont sorti le grand jeu. Alexandre Vaux, vous étiez au Parc des Princes.
Kylian Mbappé a marqué hier soir à seulement 22 ans le premier quadruplé en équipe de France depuis 1958, dont un but de la tête. Là aussi, une première pour lui en bleu.
C'est vrai que voilà, j'ai pas un grand jeu de tête, mais depuis cette année, j'ai beaucoup progressé déjà. C'est pas encore un jeu de tête de haut niveau, mais ça commence à correspondre un peu plus à ce que je veux devenir.
Karim Benzema a lui inscrit un doublé dépassant David Trezeguet pour entrer dans le top 5 des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Signe aussi que son entente avec Kylian Mbappé ne cesse de s'améliorer.
Comme je le disais des matchs auparavant, il y a un moment ou un autre où ça va rentrer. Je pense qu'on a montré qu'on était compatibles et qu'on pouvait jouer à deux et s'amuser sur un terrain de foot tout en étant collectif et décisif.
Cela fait bien longtemps qu'on n'avait plus vu les Bleus gagner si largement, le sélectionneur Didier Deschamps.
Je ne vais pas parler de soirée parfaite, mais bon, ça y ressemble parce que jusqu'à maintenant, les 7 matchs du Kazakhstan, ils n'avaient pas pris beaucoup de buts aussi, mais on a tellement mis de qualité qu'on les a mis en souffrance et on a eu l'efficacité aussi.
Les champions du monde sont donc qualifiés avant leur dernier match pour leur 7e phase finale d'affilée du Mondial l'année prochaine au Qatar.
Reportage d'Alexandre Vaux. Voyons maintenant ce qui s'est passé ou ce qui se passe du côté des équipes de France de rugby.
Et oui, avec un énorme exploit du 15 de France féminin, on a bien fait de les encourager hier, Laetitia.
Alors, je ne sais pas si on y est pour grand-chose, mais en tout cas, effectivement, jamais les Françaises n'avaient battu la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre, avec un tel écart. 38-13, 6 essais à 1. Un truc de ouf, ont réagi les joueuses d'Annick Hérault après le match. La Nouvelle-Zélande tentera de prendre sa revanche samedi prochain.
Et le 15 de France masculin masculin, lui, affronte la Géorgie à Bordeaux tout à l'heure.
Oui, c'est une équipe accrocheuse cet après-midi à 14h, mais les Bleus sont en confiance une semaine après leur succès sur l'Argentine et ils peuvent compter sur de l'émulation dans l'effectif. Illustration avec le troisième ligne, Grégory Aldrit. Il retrouve une place de titulaire aujourd'hui. Lui qui est présenté comme un cadre de l'équipe était pourtant sur le banc des remplaçants la semaine dernière, signe que la concurrence est rude à ce poste. Alors est-ce que c'est pas trop difficile à gérer ? Non, question d'état d'esprit, dit-il.
Non, on ne prend pas un coup derrière la tête. Parce que quand on voit les troisième lignes qui jouent, c'était trois très bons joueurs. Donc ça met une extra motivation. Voilà, à chaque fois qu'on fait une séance d'entraînement, mais peut-être qu'on essaye d'aller plus loin, de faire plus, de toujours faire plus, de se surpasser. C'est vraiment la définition de la concurrence. Et non, honnêtement, je le prends très bien. Et comme je le dis, je vois ça comme un challenge et comme je suis un très grand compétiteur, j'adore les challenges.
Et à propos de grands compétiteurs, c'est la dernière aujourd'hui d'un pilote moto de légende. Valentino Rossi va mettre un terme à 25 ans de carrière à Valence et quand même 9 titres de champion du monde.
Ça valait le coup d'être signalé. Merci Laetitia.
Dans le journal de Christelle Rebière, le temps de ce dimanche.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Un dimanche souvent bien maussade, hein, Jean-Michel Golinski.
La dépression qui circule à proximité de la Sardaigne va donner des pluies orageuses, parfois abondantes sur l'est de la Corse. En journée, pluie et orages vont gagner les Alpes du Sud ainsi que la Provence en donnant de la neige à partir de 1500 mètres sur le relief frontalier. Le tout va s'accompagner d'un vent turbulent vers 80 km à l'heure pour le Mistral, la Tramontane et les rafales d'est sur les littoraux du Var de la Côte d'Azur. Sur le reste du pays, comme hier, l'ambiance sera souvent maussade, avec des pluies faibles en général. Les précipitations seront plus marquées par blocage sur les Pyrénées, avec de la neige à partir de 1300 mètres. Enfin, le soleil va résister aujourd'hui sur le Languedoc et les plaines du Roussillon. Les températures douces ce matin, entre 5 et 8 en général, 12 sur les côtes jusqu'à 16 sur la Corse, vont cet après-midi perdre quelques degrés par rapport à hier sur les régions méridionales.
Jean-Michel Golinski, Météo France.